France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la garantie foncière ou la République des coquins ou des copains et des coquins, selon l'expression consacrée. À la fin des années 60, cette garantie est le symbole de l'optimisme des Trente Glorieuses. Tout le pays connaît son existence et les petits épargnants ne jurent que par elle. C'est une société d'investissement immobilier au rendement faramineux, alors bien sûr, elle attire le chaland. Fondée par un entrepreneur audacieux, Robert Frankel, dirigée par un baron du gaullisme, André Rive de Laves, elle promet à ses souscripteurs un retour sur investissement rapide et sûr dans un secteur alors en pleine expansion, l'immobilier. Mais en juillet 71, tout bascule. Un article du Monde révèle que tout cela n'est qu'une escroquerie basée sur un schéma bien connu des magouilleurs, la pyramide Ponzi. Et pour couronner le tout, une rumeur commence à circuler. Les révélations viendraient d'un ennemi intime du mouvement gaulliste, un ministre pas encore président, Valéry Giscard d'Estaing. Affairisme et services publics sur fonds d'immobilier, les ingrédients d'un scandale politico-financier qui va tenir la France en haleine pendant des mois sont réunis. Jean-Pierre Mocky en fera un film et Henri Salvador une chanson. Alors, c'est quoi exactement cette garantie foncière ? Notre invité aujourd'hui, Jean Garrigue, historien, auteur des scandales de la République, de Panama à l'affaire Elf, livre paru chez Robert Laffont. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Guillaume Balandras, coordination et rédaction en chef, Franck Cognard. Attaché de production, Rebecca Donante, réalisation, Hélène Dizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Quand on fait des placements dans la pierre, ça tient toujours. Alors qu'avec du papier ou de la monnaie, on ne sait jamais où on va.
15 millions, 1 milliard 500 millions de vieux francs, c'est la somme que M. Robert Frankel et son épouse sont accusés d'avoir détournée au détriment des souscripteurs de la garantie foncière.
Ils pouvaient par exemple acheter des immeubles à des sociétés dont ils étaient en fait les véritables propriétaires.
Et ce soir, il y a de nouvelles inculpations, et notamment celle de M. Rive-Henri de Laves, député UDR du 19e arrondissement.
L'affaire Frankel risque d'avoir des prolongements dans bien des milieux, à la limite de la politique et de l'économie.
Mercredi 7 juillet 1971, 16e arrondissement de Paris. Sous un soleil de plomb, une poignée de journalistes fait le pied de grue devant l'immeuble cossu du 22 rue Jasmin. Chemise en lin et calepin en poche, ils ont attendu pour écouter les explications d'un patron pris dans la tourmente d'un scandale politico-financier, un certain Robert Frankel. Pour les Français, ce moustachu corpulent est un inconnu, mais dans le monde de la pierre, il est une sorte de légende. C'est lui, l'artisan du succès d'une société qui a démocratisé l'investissement immobilier, une entreprise dont les publicités recouvrent les murs de Paris depuis des années, la garantie foncière. Le principe est redoutable. La société achète des immeubles parisiens en investissant l'argent de petits épargnants. Ensuite, les fonds générés par les locations leur sont reversés. Le rendement promis par Frankel et sa garantie foncière est inédit dans le secteur, 10,25%. Pour donner un ordre de grandeur, c'est deux fois plus qu'un livret de caisse d'épargne, quatre fois le rendement de cette pauvre assurance-vie, qui ne rapporte plus grand-chose, surtout les fonds en euros sécurisés, mais indigents en termes de rapport pour les épargnants. Alors à Paris, ça fait des années que les spécialistes s'interrogent, mais comment fait ce Frankel pour assurer un rendement de 10%? Quel est donc ce secret de fabrication qu'il ne cesse d'invoquer? Eh bien c'est justement là que se situe le scandale. Le stratagème a été révélé dans un article du Monde, publié deux jours plus tôt. Pour payer les intérêts, les 10%, l'entreprise piocherait dans les apports des nouvelles souscriptions. Dans le milieu de la magouille, on appelle ça une pyramide Ponzi. Une technique implacable, tant que les clients affluent et que l'argent entre, mais qui s'effondre aussi sec au moindre ralentissement, ruinant au passage toutes celles et tous ceux qui ont investi. Et ils sont nombreux. En cet été 71, la société compte près de 13 000 épargnants inscrits pour 205 millions de francs d'actifs. Mais ce n'est pas tout. Frankel aurait détourné 15 millions de francs à ses souscripteurs et ses petites combines seraient dans le collimateur de la justice. Bref, ça sent mauvais pour le volubile patron, comme l'atteste cet extrait du journal de France Inter.
15 millions, 1 milliard 500 millions de vieux francs, c'est la somme que M. Robert Frankel et son épouse sont accusés d'avoir détournée au détriment des souscripteurs de la garantie foncière. 15 millions, c'est une jolie somme Et c'est une opération qui n'a été rendue possible que parce que les sociétés civiles immobilières, qui comme leur nom l'indique, ont un statut de droit civil, ne sont pas contrôlées aussi étroitement que les sociétés commerciales.
Alors, Robert Frankel a-t-il profité du statut avantageux des sociétés civiles immobilières ? Avant de répondre à la justice, l'homme a décidé de convoquer au siège social de son entreprise tous les journalistes qui n'ont pas fui Paris pendant l'été. Alors, quand il pousse la lourde porte du 22 rue Jasmin, tous se posent la même question. Quelle va être la ligne de défense de l'homme d'affaires ? En réalité, si cette histoire passionne autant les rédactions, ce n'est pas seulement parce qu'un grand patron a été pris de la main dans le sac, on connaît, non. Cette affaire présente aussi et surtout un volet politique. Parce que Frankel n'est pas le seul homme fort de la garantie foncière. Son principal associé et ancien PDG de la société est une figure de la vie publique, un élu au sang bleu et au pedigree impeccable, le comte André Rive de Laves, que tout le monde appelle Rive Henri. Allez savoir pourquoi. Toujours est-il que résistant, puis déporté du 19e arrondissement et aussi ancien secrétaire adjoint de l'UDR, le parti gaulliste majoritaire à l'Assemblée, cet homme discret arbore le sérieux bien habillé qui rassure l'épargnant. Et puis après tout, si un baron du gaullisme valide le filon, c'est forcément du solide. Pris dans le tourbillon médiatique, l'élu se défend de toute malversation au micro de France Inter.
Monsieur Rive Henri de Laves a été de juillet 1969 à janvier 1971 le président-directeur général de la COFRAGIM, c'est-à-dire la société qui gérait la garantie foncière. Et c'est du reste Monsieur Robert Frankel qui lui avait succédé en tant que PDG.
Monsieur le député, est-ce que je peux vous demander si vous êtes solidaire de Monsieur Frankel ?
Je n'ai pas à être raison de solidaire de M. Frankel, je suis solidaire de moi-même par rapport à ma gestion, je n'ai aucune raison d'être solidaire de celle des autres.
Ce 7 juillet, quand les journalistes pénètrent dans l'imposante salle de réception de la société, ils sont plusieurs à se demander si l'alliance entre les deux hommes tient toujours, mais surtout, quel rôle exact a joué le député ? Autrement dit, s'agit-il d'un scandale d'État ? Hélas, pour les journalistes, l'élu est déjà loin. Suite à son intervention à la radio, Rive Henri est parti se claquemurer dans son luxueux appartement cannois. Des deux responsables, seul Frankel est prêt à s'expliquer. Enfoncé dans son fauteuil Louis XV, le front perlé de sueur, l'homme affiche une mine livide, presque transparente. Entouré de ses tapisseries de velours et de sa femme qui a passé une robe de soirée pour l'occasion, il s'éponge le front, puis il commence à répondre à quelques questions.
Quel est le style des opérations que vous menez ?
Il n'y a pas de style, nous achetons des immeubles que nous louons aux plus grandes sociétés et nous répartissons le produit des loyers à nos porteurs.
Ce sont des sociétaires qui achètent vos immeubles par votre intermédiaire.
Ils n'achètent pas les immeubles,
ils ont des parts.
Ils ont des parts et les parts sont attributives de l'ensemble des immeubles dont la société est propriétaire.
Incontestablement, vous avez des difficultés, M. Frankel. Comment comptez-vous les résoudre ?
Nous n'avons aucune difficulté si par, si vous voulez, une campagne de presse, vous n'en créez pas vous-même en affolant, si vous voulez, les porteurs de parts.
Pour Frankel, donc, aucun problème à signaler. Et quand on lui demande pourquoi la justice s'apprête à l'inculper, eh bien il suggère que la campagne de presse dont il est victime a été orchestrée par ses ennemis politiques. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Bien joué, cela dit. Car dans l'assistance, quelques sourcils se lèvent. Certes, Frankel a tout du combinard sur la défensive, mais s'il avait raison. Après tout, il est de notoriété publique que ce patron n'a pas que des amis dans le milieu politico-médiatique parisien. Dans l'ombre des palais de la République, il y a même un homme qui tire les ficelles depuis des mois pour faire tomber la garantie foncière, et avec elle toute la clique gaulliste, un certain Valéry Giscard d'Estaing. En cet été 71, celui qui deviendra président de la République 3 ans plus tard est un politique en pleine ascension. Ministre de l'économie du président Pompidou, il fait partie de cette nouvelle génération d'hommes de droite qui veulent tourner la page des années de Gaulle et faire basculer le pays dans un libéralisme à l'anglo-saxonne. Un moderne, assurément, ce Giscard, déjà un as de la com. Depuis le retrait de la vie politique du général et sa mort quelques mois plus tôt, c'est ainsi la majorité se déchire. Entre les vieux amis issus de la résistance, comme le premier ministre Jacques Chaban-Delmas, un homme pourtant d'une furieuse modernité pour l'époque, ou le député Rive Henri justement, et puis les libéraux avides, eux, de changement, comme Giscard, qui, vertu en bondelière, estime que la fraude est incompatible avec l'économie moderne.
À partir du moment où on entre dans l'économie moderne, les règles du jeu ne peuvent pas être faussées par la permanence d'une fraude qui fait que les uns contribuent à la vie collective et que les autres se soustraient à cette contribution. Il faut absolument, dans une économie moderne, que les règles du jeu soient respectées par tous. C'est donc un accord normal qui veut simplement dire une chose, c'est que les règles du jeu fiscal seront désormais respectées.
Alors, le scandale de la garantie foncière cache-t-il un règlement de compte politique ? Car elle est bien là, la question centrale de cette affaire. Pour mieux la comprendre, il faut revenir 4 ans en arrière, en 1967. Le général de Gaulle est à l'Élysée et les Trente Glorieuses à leur apogée. Le pays vit une période de modernisation frénétique, de prospérité inédite depuis le Second Empire. C'est l'heure des 4L, de la nature qu'on piétine, on paiera l'un plus tard. C'est l'époque des yéyés, du formica et de la démocratisation de la propriété. Les chantiers poussent comme des champignons, les investisseurs petits et grands renouent avec une vieille passion française, l'immobilier. Dans ce contexte d'euphorie générale, un jeune patron de 33 ans, à la tête d'une affaire d'import-export, décide de se lancer dans ce marché juteux et il s'appelle Robert Frankel.
Dans les 30 ans à venir, il faudra construire autant de logements qu'il en existe actuellement et il faudra les construire en ville, où les terrains de plus en plus rares coûtent de plus en plus cher. Aujourd'hui, 30%, parfois même 50% du prix des logements, demain, le double peut-être. C'est l'urbanisation de la France, son passage de l'âge agricole à l'âge industriel, qui risque de se trouver littéralement bloqué parce que le sol nécessaire à tous est retenu très légalement d'ailleurs par un petit nombre.
Paris, 31 décembre 1967. Alors que la capitale s'apprête à fêter la nouvelle année, Robert Frankel, lui, se prend à croire au Père Noël. Enveloppé dans son épais manteau, surmonté d'un chapeau mou, une mallette de cuir à la main, le jovial patron arrive au numéro 1 du boulevard du Palais. Il s'engouffre dans le tribunal de commerce. La mine, engourdie mais réjouie, il s'avance jusqu'au guichet. C'est une journée décisive pour l'entrepreneur, car il vient inscrire au registre sa toute nouvelle affaire, une SCPI, soit Société Civile de Placement Immobilier, appelée Garantie Foncière. Malgré ses 33 ans, Frankel n'est pas un débutant. Après avoir fait ses armes dans l'entreprise familiale de confection, il s'est lancé dans l'importation de produits électroniques japonais. En 3 ans, le chiffre d'affaires de son entreprise a flambé, ce qui lui permet de mener un train de vie confortable. Mais l'homme est du genre ambitieux. Et depuis son récent séjour aux États-Unis, il rêve de faire fortune dans l'immobilier, alors en pleine explosion, comme on l'a dit. Et à New York, comme à Paris, c'est la même rengaine. La pierre, le parpaing ou le béton rapportent des millions à ceux qui savent flairer les bons coups. Alors, un peu partout, le prix au mètre carré s'envole. Avec un bureau, un téléphone et de la volonté, certains arrivent à transformer un local commercial ou même l'open terre à betterave en kilo d'or. Bref, c'est le moment idéal pour investir. Dès lors, pour l'audacieux Frankel, une question se pose. Comment acquérir rapidement du foncier avec un capital de départ modeste ? Eh bien, tout simplement, en sollicitant l'épargne publique des Français. Chaque bien immobilier pourrait être divisé en des dizaines, voire des centaines de parts. Et de cette façon, même les ménages les plus modestes pourraient investir et accéder à un marché réputé hors d'atteinte pour un budget normal, l'immobilier parisien. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est sur cette idée brillante que naît la garantie foncière. Pour 1000 francs la part, l'épargnant devient copropriétaire d'un immeuble parisien et encaisse chaque mois une fraction du loyer. Le plan de Frankel est implacable. Il lui ouvre des parts de marché au sein des milieux alors en plein boom, la classe moyenne. À ses millions de clients potentiels, Frankel propose un investissement sûr, au rendement jamais vu, 10,25% par an donc. Imprimé sur chaque publicité, ce chiffre devient bientôt l'argument massu de la société. On l'a vu, ce rendement est largement dû à une pyramide de Ponzi. Frankel paye les intérêts avec les mises de départ des nouveaux membres. Des années plus tard, c'est ce même système qui fera le bonheur, puis le désespoir de Bernard Madoff et surtout de tous ceux que ce malfaiteur à grande échelle a ruiné, poussé au désespoir.
Ils pouvaient encore payer les 10 ou 12% d'intérêt qu'ils promettaient à leurs nouveaux adhérents, non pas avec les loyers encaissés, mais avec le renfort des nouveaux fonds qu'ils avaient recueillis. Ainsi, était-il condamné à une espèce de fuite en avant. Grâce à une publicité toujours plus racoleuse, il leur fallait sans cesse convaincre plus de Français des avantages des placements dans la pierre.
Pour attirer les épargnants et alimenter la machine, Frankel organise une communication agressive où il met en avant un visage connu, celui du très rassurant comte André Rive de Lavesse, alias Rive Henri. Dès le départ, le député endosse le rôle de PDG. Et de cette façon, c'est tout le mouvement gaulliste qui devient, au moins aux yeux de l'opinion, le garant de la garantie foncière. Il faut dire qu'en cette fin des années 60, le mariage du pouvoir et de l'argent est largement consommé. On ne compte plus les élus gaullistes, anciens et nouveaux, comme Antoine Roulant ou Roland Dingesser, accusés de tremper dans des affaires plus ou moins tordues. Autrement dit, André Rive-Henri n'est ni le premier ni le dernier à pratiquer le mélange des genres. Mais sous les dorures des palais de la République, certains grincent des dents. Le Premier ministre en tête, Georges Pompidou. Virulent critique du pantouflage, il montre une hostilité à peine voilée contre les élus combinards et d'autres spéculateurs. L'immobilier, c'est nécessaire, sans doute, dit-il. Avant d'ajouter, mais c'est mal fréquenté. Quoi qu'il en soit, les gaullistes pur sucre semblent intouchables. Entre un général bien occupé à l'Élysée et la vaste majorité parlementaire, l'UDR fait la pluie et le beau temps sur la vie politique. Et comme beaucoup, Rive-Henri ne se méfie pas et mobilise son carnet d'adresses pour booster la garantie foncière.
10,25% dans la pierre, ce n'est pas un miracle.
Tandis que l'agitation et les hasards règnent aujourd'hui sur la plupart des placements, l'immobilier poursuit une tranquille ascension.
La garantie foncière propose à ses associés une rentabilité nette de 10,25%.
Certains crient au miracle, d'autres voient dans ce chiffre le résultat d'opérations inavouables. Pour nous, c'est la revanche de la pierre.
Ainsi, début 68, quand les premières pubs apparaissent dans des journaux, l'engouement est instantané. Excité par un rendement fou, rassuré par la présence d'un député, les capitalistes du dimanche affluent. 10, 100, 1000 et bientôt 7000, les premiers mois d'exploitation dépassent toutes les attentes. De nombreux immeubles sont acquis et les intérêts promis sont payés rubis sur l'ongle. En quelques mois, voilà l'ancien marchand de tissus et l'élu à la tête d'un empire immobilier. Car la pyramide de Ponzi n'est pas la seule combine conçue par Frankel. L'homme compte sur une autre manigance, dont il a entendu parler pour la première fois lors de son séjour aux États-Unis, la surévaluation des actifs. Alors là encore, l'astuce est simple. Les biens immobiliers payés avec l'argent des souscripteurs sont achetés au prix fort à une deuxième société, plus discrète, mais contrôlée elle aussi par Frankel, et qui a acquis des biens en question au prix du marché. Il y a par exemple cet immeuble cossu de la rue du Louvre, siège de l'entreprise de textile Saint-Frère. La société parallèle l'a acheté 17 millions de francs. Et après quelques petits travaux, elle l'a revendu 25 millions aux souscripteurs de la garantie foncière. Une plus-value de 8 millions de francs encaissée discrètement. Grâce à ce savant montage, Frankel réalise son rêve, faire fortune. Mais un an plus tard, au printemps 69, la France est secouée par un événement politique majeur, la démission du président de Gaulle. Suite à l'échec de son référendum sur la décentralisation et la réforme du Sénat, deux thèmes dont les Français se fichent complètement, l'homme du 18 juin en tire la leçon et sa révérence. Ses proches, comme ici le président de l'Assemblée, Jacques Chaban-Delmas, peinent à cacher leur émotion sincère.
La séance est ouverte. J'ai reçu la lettre suivante. Le texte de cette décision est ainsi libellé. 28 avril 1969, je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi, signé Charles de Gaulle.
Privé de son chef, la majorité gaulliste se fissure. Plusieurs tendances émergent, avec d'un côté les fidèles du général, les barons du gaullisme, dont Rive-Henri, et de l'autre, les modernes qui veulent dépoussiérer la droite. C'est le cas, ou en tout cas l'intention affichée de l'ancien Premier ministre qui vient tout juste d'être élu président, Georges Pompidou, mais aussi de son nouveau ministre de l'économie, Valéry Giscard d'Estaing. Fondateur de la Fédération Nationale des Républicains Indépendants, un parti qui peut tenir congrès dans une cabine téléphonique, Giscard n'a jamais fait partie des sérails gaullistes. Et il compte bien profiter de la période pour glisser quelques pots de banane sur la route de ses vieux ennemis. Dès sa prise de fonction en juin, il charge discrètement l'un de ses conseillers, Antoine Brunet, de surveiller la garantie foncière. Austère et rigoureux, ce jeune fonctionnaire, fils d'un gouverneur de la Banque de France, se met au travail. Il se procure les déclarations de patrimoine, les transactions bancaires et les statuts de la société. Mais bientôt, l'information remonte jusqu'à Rivenry. Alors pour ne pas prendre de risque, le député décide de se retirer des statuts. Et la présidence retourne au fondateur Robert Frankel. Bien évidemment, Rivenry continue de travailler au sein de la garantie foncière après tout. Pourquoi changer l'équipe qui gagne ? Mais, sauf que les deux hommes ne se doutent pas que dans quelques mois, ils seront la risée du pays.
Dans un journal très documenté, j'avais lu cette publicité. Placement dans des appartements, aux intérêts de 12%. À la garantie foncière, ça c'était la bonne affaire. Je me voyais propriétaire. J'avais des parts dans des maisons. À la garantie foncière, ça c'était la bonne affaire. Mais les beaux immeubles en ville, ce n'était que des bidonvilles. À la garantie foncière, mon pognon s'est fait la paire. Il a fondu au soleil, au Balear c'est naturel. Le PDG avait des relations aussi solides que son béton.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le scandale de la garantie foncière.
France Inter. Affaires Sensibles.
Rive de la Méditerranée, soirée du 17 septembre 1970. Dans la torpeur de la fin d'été, le paquebot Mermoz glisse doucement le long de la baie de Marseille. À son bord, des centaines de convives en goguette prennent du bon temps. La croisière s'amuse. Tous ou presque sont des souscripteurs de la société d'investissement immobilier la plus connue du pays, suivez mon regard. Chemise en lin et coupe de champagne à la main, tous célèbrent leur succès collectif en discutant tranquillement de leur épargne et des fameux 10% de rendement qu'ils touchent chaque année. Au milieu de ces invités, un homme rondouillard affiche un large sourire. Robert Frankel, bien sûr. Créateur de la garantie foncière, gros chat luisant de malice, comme l'écrira le journaliste Jean-Jacques Faust, il savoure sa réussite. L'argent des autres, c'est son affaire. Ou plutôt leur affaire, car à ses côtés, cigare à la main et lunettes fumées sur le nez, se tient l'autre homme fort de la société, le député André Rivenry. Un peu plus tôt dans la journée, le vieux gaulliste a pris le temps de répondre à quelques questions de l'ORTF pour le journal télévisé.
Le bas de laine a peut-être un peu disparu, mais ce bas de laine est remplacé par autre chose, par des placements et aussi par des achats.
Quand on fait des placements dans la pierre, ça tient toujours, alors qu'avec du papier ou de la monnaie, on ne sait jamais où on va.
Néanmoins, dans la soirée, le député apparaît plus fébrile que son compère. C'est probablement qu'il sent les ennuis approcher. Et notamment ce diable de Giscard qui veut lui faire la peau. Alors, entre deux verres, il tente de se rassurer. Après tout, il sait que les statuts de la société ont été peaufinés jusqu'au moindre détail par l'avocat engagé par Frankel, le mystérieux Victor Rochenoir. Tiens, celui-là, c'est le troisième homme de la garantie foncière. Et son rôle est déterminant. Juif engagé dans la résistance, à l'âge de 14 ans, passé par le socialisme et le maoïsme, cyclotimique et ambitieux, Roche-Noire a eu la charge délicate de créer le montage juridique de la société Garantie Foncière. Assis seul à une table, il sirote silencieusement un verre de cognac. Parmi les invités, personne ne le connaît et pourtant, il est l'un des artisans principaux du succès du jour. Grâce à son travail, il est très difficile de prouver que l'entreprise mobilise une double arnaque, la pyramide Ponzi et la surévaluation des actifs. Ainsi a-t-il profité de plusieurs flous législatifs pour créer un enchevêtrement savant qui garantit, du moins le pense-t-on à l'époque, l'impunité. Mais Giscard lui est confiant. Ce trio va tomber, c'est sûr. Son conseiller Antoine Brunet a travaillé d'arrache-pied ces derniers mois et il a accumulé de nombreuses pièces qui prouvent que la garantie foncière est un repère d'escrocs. Alors, pour précipiter une enquête officielle, Giscard décide d'envoyer les conclusions de Brunet à son collègue du garde des Sceaux, René Pleven. Pourtant, dans les semaines qui suivent, rien. La justice ne bouge pas. Il faut dire que même si le mouvement gaulliste a perdu sa superbe, il est toujours très implanté dans l'administration. Parmi les fonctionnaires, ils sont nombreux à hésiter avant de s'attaquer à un fidèle du général. Or, Giscard est de genre tenace. Pendant des semaines, il relance son confrère, multiplie les courriers, prévient plusieurs institutions comme la commission des opérations de bourse. Et il peut compter également sur un coup de pouce du destin. Le 9 novembre 70, son vieil ennemi, héros de la France libre, Charles de Gaulle, meurt à Colombey. Le pays est en deuil. Face à la caméra de l'ORTF, quelques passants réagissent à la nouvelle.
C'est un homme droit, ce que tu...
C'était pas un saint, il était comme les autres, il avait ses défauts, mais c'était un homme impel.
On n'en trouve plus comme cela.
Et puis qui aimait la France.
Je trouve ça pénible qu'il soit mort comme ça, et je trouve que rarement, je crois, dans l'histoire, nous n'avons eu un personnage aussi énorme et aussi pur.
Il me le demandait parce qu'à présent, il représente quelque chose d'extraordinaire en 1940, monsieur. Ça a été un flambeau pour les pauvres gens qui se sont vus sous la boîte allemande.
Hasard du calendrier ou pas, deux mois plus tard, en janvier 71, une information contre X est ouverte concernant la garantie foncière. Enfin, la justice met le nez dans les affaires de Frankel et Rive-Henry. Pourtant, un problème se pose pour les enquêteurs. Comment prouver que la société a opéré dans l'illégalité? Jusqu'à preuve du contraire, vendre un bien au-dessus du prix du marché n'est pas interdit. Et puis ce Roche-Noir, il était malin, il a profité d'une législation pas très clair pour concevoir une usine à gaz difficile à attaquer. Dans les semaines qui suivent, les fonctionnaires du ministère des Finances remontent le fil de toutes les transactions. Et bien, à force de travail, tout de même, ils arrivent à accumuler suffisamment de pièces pour prouver qu'une partie des intérêts, les fameux 10,25%, ont été payés avec les apports des nouveaux épargnants et que Frankel a détourné au bas mot 32 millions de francs au détriment de milliers de souscripteurs. Finalement, le 5 juillet 1971, comme nous l'avons raconté au début du récit, un article du Monde révèle l'affaire au grand public. Sommé de s'expliquer, Frankel convoque la presse deux jours plus tard, le 7 avant d'être inculpé, le 9. Les charges sont lourdes, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux. Puis, quelques jours plus tard, c'est au tour du député Rive-Henry. Après une première audition face au juge, il répond à quelques questions au micro de France Inter.
Faites aucun doute que je suis parfaitement innocent. Il était parfaitement nécessaire également que je sois entendu et peut-être même inculpé de manière à ce que la situation s'éclaircisse. Si j'étais à la place du ministère des Finances, j'aurais fait exactement la même chose. Je me serais informé. C'est ce qu'a fait le ministre des Finances.
Français découvrent alors la collusion malsaine entre la spéculation immobilière et la politique, en particulier chez les gaullistes. Et au passage, ils découvrent Giscard. Face aux journalistes, le ministre joue la partition du responsable intègre, loin des petites combines des vieux amis du général. Deux ans plus tard, en octobre 73, le procès de la garantie foncière s'ouvre enfin. Très suivi, les débats s'orientent rapidement sur le volet politique de l'affaire. À la barre, les trois prévenus passent sous le feu des questions, bien sûr. Ont-ils profité de complaisance à l'intérieur de l'appareil d'État? quel rôle a joué le parti gaulliste? Pendant les 3 mois d'audience, l'opinion se passionne une dernière fois pour la garantie foncière. Il faut dire qu'entre-temps, plusieurs affaires similaires ont éclaté. Parmi elles, citons celle du patrimoine foncier, une société gérée par un autre député, ou encore le scandale de la financière de participation, une entreprise à un seul employé, un certain Jean Quinery, qui promettait à ses souscripteurs un rendement délirant de 15%. Autrement dit, dans le petit théâtre politico-magouilleur, les acteurs changent, mais la pièce reste la même. Finalement, en mars 1974, le jugement tombe. Robert Frankel, André Rive-Henri et Victor Rochenoir sont condamnés à des peines d'emprisonnement. 4 ans et demi ferme pour le fondateur et 18 mois avec sursis pour le député. Depuis son bureau du Palais du Louvre, Giscard esquisse un sourire. Le ministre peut à son tour savourer le succès. Désormais incontournable au gouvernement, VGE se lance un mois plus tard dans son ultime revanche sur les gaullistes, l'élection présidentielle. Jouant sur son image de probité, son refus des petites combines, mais aussi sur sa proximité avec le pouvoir, il se fait élire sur une ligne typiquement centriste, le changement sans le risque ou le changement dans la continuité. Autrement dit, sur un positionnement situé entre la lassitude des Français pour le gaullisme et leur timidité face à l'aventure socialiste.
Le changement pourquoi ? Parce que le monde change, parce que le temps change, parce que vous changez, et que la politique française doit s'adapter à ce changement. Les Français le savent, mais ils ont une certaine inquiétude sur les conséquences du changement. C'est pourquoi je vous propose le changement sans le risque.
Avec cette stratégie, Giscard écrase au premier tour son concurrent direct, le gaulliste Jacques Chaban-Delmas, trahi par les Pompidoliens, avant de remporter le 19 mai son duel final contre François Mitterrand. Pour les Français, l'affaire de la garantie foncière semble déjà loin. L'année précédente, le choc pétrolier a sonné le glas des Trente Glorieuses. Une nouvelle législation sur l'immobilier a rendu l'accès au secteur plus difficile pour les mercenaires du foncier. Giscard à l'Élysée et Frankel à la Santé. Au fond de sa cellule, l'ancien patron rumine. La pierre, celle qui a fait son bonheur, est désormais son cachot. Il ne le sait pas encore, mais la spéculation folle n'en est qu'à ses débuts. Car entre les années 70 et aujourd'hui, le prix du mètre carré parisien a été multiplié par 10. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la garantie foncière. Notre invité, Jean Garrigue, bonjour.
Bonjour, Fabrice Drouel.
Historien, spécialiste de la Ve République et de ses magouilles, entre autres. Vous êtes l'auteur des Scandales de la République, de Panama à l'affaire Elf, paru chez Robert Laffont, et vous avez dirigé le livre Histoire secrète de la corruption sous la Ve République, paru, lui, aux éditions du Nouveau Monde. Deux questions sur la garantie, parce que j'espère qu'avec le récit, on était assez complet. Peut-on parler vraiment de scandale d'État ?
On peut parler d'un scandale politique, ça c'est sûr, et on n'est pas loin du scandale d'État dans la mesure où je parlerai d'un règlement de compte au plus haut niveau de l'État, puisque vous l'avez souligné, il s'agit quand même d'une affaire qui est un règlement de compte entre d'un côté Valéry Giscard d'Estaing et de l'autre côté des proches de Jacques Chaban-Delmas, qu'on va retrouver tous les deux comme adversaires à l'élection présidentielle de 1974. Alors ça représente aussi d'ailleurs un règlement de compte entre deux clans, d'une part celui de Valéry Giscard d'Estaing, ces républicains indépendants qui sont en pleine ascension, enfin autour essentiellement de la personne, de la personnalité de Giscard, et de l'autre côté, la vieille garde gaulliste, que représente aussi bien Chaban qu'André Rive-Henry, qui est un ancien résistant décoré, vieux gaulliste, qui a été secrétaire général adjoint de l'UDR, un baron du gaullisme. Mmh. Il y a eu André Rouland aussi, qui était, lui, impliqué dans une autre affaire, qui s'appelait celle de patrimoine foncier. Donc il y a l'entourage de Chaban-Delmas d'un côté, et de l'autre, Valéry Giscard d'Estaing, en pleine ascension, qui essaye de dégommer ses adversaires, et ce qui fera dire à son alter ego, Michel Poniatowski, les copains et les coquins.
Voilà. Ah, ça vient de lui.
Ça vient de lui. C'est,
d'accord.
C'est Poniatowski qui, dans un magazine qui s'appelle L'Économie, a parlé de ses copains et de ses copains, de ce système, on dirait aujourd'hui le système gaulliste, qu'il fallait essayer de supprimer, en fait.
Donc, Giscard en chevalier blanc, hein, comme.
Exactement.
Avec ses petits cavaliers blancs autour.
Exactement.
Et on parle à ce moment-là d'un gaullisme immobilier. De quoi s'agit-il ? Ouais. Ce sont d'autres affaires immobilières comme ça ?
Oui, il y a une succession d'affaires à ce moment-là qui sont, j'allais dire, presque logiques, puisque les gaullistes tiennent véritablement les pouvoirs dans cette société française des années 60, non seulement les pouvoirs nationaux, mais locaux aussi, et partout. D'autres affaires éclatent d'ailleurs de pots de vin pour l'attribution d'hypermarchés ou de supermarchés. Il y a énormément d'affaires de ce style qui éclatent dans ces années 60.
Oui, parce que les supermarchés arrivent à ce moment-là. Justement.
Voilà, exactement. Et donc là, avec cette hypercroissance des années 60, les appétits, mais vous l'avez bien souligné, cette frénésie de logement, eh bien la plupart des grandes sociétés immobilières, ces fameuses SCPI, prennent pour se légitimer des hommes politiques au pouvoir, quelquefois plus ou moins impliqués, comme Victor Rochenoir, qui était quand même avocat conseil de la société Garantie Foncière. Et ces gens-là, à plusieurs reprises, sont impliqués dans des scandales. Il y aura aussi Philippe de Chartres, qui a été un ministre à l'époque, qui représentait l'aile gauche,
et
d'ailleurs,
des
gaullistes de gauche.
Et qui était élu de Châteauroux de Lavre.
Oui, c'est ça. Et qui était impliqué, lui, dans une affaire de promotion immobilière sur l'île de Ré. Donc il y a plusieurs élus qui vont être impliqués, et il y aura, il faut s'en souvenir aussi, en 1972, une affaire qui va éclabousser vraiment toute la galaxie gaulliste, qui est l'affaire Aranda, de ce fonctionnaire du ministère de l'Équipement qui a dévoilé comme ça tout un ensemble de, comment dirais-je, d'attributions, de marchés, d'affaires très frauduleuse, qui impliquait comme ça des responsables gaullistes.
Alors on va parler de Giscard, justement, parce que les affaires de ce type ne sont vraiment intéressantes que lorsqu'elles ont des prolongements politiques, hein, sinon c'est des faits divers. Et Giscard, alors j'ai regardé, figurez-vous, hier, en préparant cette émission, j'ai revu le documentaire de Parti de campagne.
Voilà. Je l'ai revu aussi, comme vous, il y a quelques jours.
Et vous avez vu. Alors c'est formidable, parce que Giscard est le premier roi de la com, d'autant plus que ce film-là est à l'initiative de Giscard, il se met en scène, et ensuite il dit non, vous passez pas le film parce qu'on me voit me peigner, là ça va pas du tout. Bon. Comment il est perçu, ce Giscard, qui est déjà dans la com avant d'être président?
Oui, Giscard a comme vous l'avez dit, Giscard était très influencé par JFK, par John Fitzgerald Kennedy. Je pense que c'est déjà lorsqu'il était secrétaire au budget, c'est-à-dire on est dans les années 59-60, qu'il a été amené à partir aux États-Unis. Et au début de la présidence de Kennedy, il a été amené à côtoyer Kennedy. Il l'avait aussi dans les médias, etc. Et il s'en est beaucoup inspiré pour sa communication, très moderne. Et alors, il a eu aussi ce talent, mais ça c'est venu un petit peu plus tard, de comprendre ce qui s'était passé en mai 68, qu'il y avait là une génération qui aspirait justement à se faire entendre, à changer de vie, à changer cette société un peu archaïque qui était celle du général de Gaulle. Et donc Giscard a compris un peu les codes que voulait cette jeunesse. En 74, il va faire campagne avec sa fille, il fait campagne, c'est la campagne de la modernité, il dévoile son corps de sportif, enfin, il se voulait comme ça, il est dans la séduction permanente, donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à cette vieille garde gaulliste.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Jean Garrigue, je peux vous poser une devinette ?
Avec plaisir.
Bon, alors, le jeu, c'est qu'il faut donner un nom au portrait qui correspond et que je vous trace maintenant, d'accord ? Jeune ministre des Finances, qui prépare son coup pour la prochaine présidentielle quand il est déjà ministre des Finances. C'est un centriste libéral, sans grand parti politique. Il est jeune, élu jeune, c'est un roi de la com, et il devient président de la République jeune. De qui s'agit-il ?
Ben écoutez, on pourrait dire Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70, mais aujourd'hui, un certain Emmanuel Macron pourrait tout à fait correspondre à ce profil.
On est d'accord, il y a des analogies. Alors, ça s'arrête là, il y a des différences, et puis oui, les enjeux ne sont pas les mêmes, l'époque n'est pas la même, mais il y a des analogies.
On pourrait y ajouter, j'allais dire, le « en même temps », parce qu'il ne faut pas oublier que le projet de Giscard, c'était de réunir deux Français sur trois. Des gens qui auraient pu venir de la gauche, du centre, de la droite. Alors, il était clairement marqué à droite quand il a fait les débuts de sa carrière. Mais son ambition, c'était effectivement de rassembler comme ça. Et c'était au début, en 2017, le projet aussi d'Emmanuel Macron. Donc vous avez raison, il y a énormément d'analogies. S'il y a un personnage politique de notre histoire à comparer avec Macron, ou plutôt à qui Macron devrait être comparé, c'est plutôt à Giscard.
Et même d'ailleurs dans son rapport au peuple.
Et dans son rapport,
dans leur rapport au peuple, tous
exactement.
Les deux.
Dans cette, alors ça c'est très complexe parce que Giscard a couru pendant tout son septennat et même avant, après le peuple. C'est-à-dire que c'était un grand bourgeois.
À se faire aimer
du peuple. C'était un grand bourgeois. Plus qu'un grand aristocrate en réalité, mais c'est un grand bourgeois, un technocrate.
Un bourgeois éclairé, on peut le dire.
Un bourgeois éclairé, un surdoué, ce sera un point commun avec Macron. Avec Macron, il faut le reconnaître. Mais on le voit invitant des éboueurs, s'invitant chez les Français tous les mois, dans cette quête perpétuelle d'un contact de proximité. Et on voit bien que c'est aussi ce qui manque beaucoup, ce qui a manqué à Emmanuel Macron, et qu'il court en permanence après ce contact avec le peuple. Il m'a été donné de le suivre dans les trois jours des commémorations du débarquement, et j'ai vu à quel point il était friand de ce contact direct avec les Français, mais pouvant y rester des heures et des heures à discuter, à serrer des mains, etc. Et malgré ça, incapable d'arriver justement à creuser, ou plutôt à combler ce fossé, de cet écart, je dirais, entre celui qui incarne les élites et puis la population.
Alors justement, concernant la dissolution annoncée dimanche soir, bon, la question est claire. Que cherche Emmanuel Macron ? J'ai envie de vous dire, mais qui est Emmanuel Macron ?
Oui, ça reste un mystère, parce que on peut le considérer comme une sorte de technocrate de la Startup Nation, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très attaché à l'identité, à l'histoire, à la culture française. C'est très compliqué de savoir où il se situe. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de « et à droite et à gauche ». C'est très compliqué aussi de savoir ce qu'il veut exactement. Il a décidé là de prendre une décision historique, mais qui est un pari extrêmement dangereux, puisque menaçant de faire arriver au pouvoir ce qui serait un événement cataclysmique, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis les ultras de la Restauration, en fait, depuis 1815, avec l'intermède de Vichy, mais qui est un contexte tout à fait spécial. Donc il prend ce risque, et en même temps, il nous dit dans sa conférence de presse, et ça peut s'entendre, que ce qu'il cherche, c'est avant tout une clarification des positions politiques et que véritablement se dévoile le véritable visage du Rassemblement national et de l'autre côté, et essentiellement de la France insoumise. Donc c'est quelque chose qui, théoriquement, peut tout à fait se justifier, mais est-ce que ça relève d'un calcul politicien cynique ou est-ce que c'est au contraire ?
J'allais vous poser la question, est-ce que vous croyez à cette hypothèse cynique qui consiste à confier le pouvoir au Rassemblement national provisoirement, de façon à lever l'hypothèque ? Est-ce que vous y croyez à ça ?
C'est une possibilité, on ne peut pas l'écarter. Emmanuel Macron est un fin politique. La preuve, comment il a réussi à prendre le pouvoir en 2017, d'où il venait, dans les conditions qui étaient les siennes, il a beaucoup profité du délabrement des partis traditionnels, de la division des partis traditionnels. Mais enfin, il est capable d'avoir eu ce calcul, de se dire, la plupart des premiers ministres se sont usés à Matignon. Si Jordan Bardella s'use, comme c'est prévisible, dans l'exercice du pouvoir, il va délégitimer le Rassemblement national et ce sera beaucoup plus difficile ensuite pour Marine Le Pen. Ça peut être un calcul.
Alors si on veut continuer avec les comparaisons avec d'autres présidents, ça c'est un côté un peu mitterrandien quand même.
Ça c'est très mitterrandien, effectivement, ce côté machiavélique.
Alors les scénarios possibles. La victoire du Rassemblement national me semble être considérée par les médias comme acquise. Elle n'est pas acquise, enfin.
Elle ne l'est pas. Et là encore, pour avoir un tout petit peu échangé avec Emmanuel Macron, elle ne l'est pas pour lui. Mais il ne l'écarte pas non plus.
Bien sûr, comment pourrait-il faire autrement ?
Il ne peut pas, puisque les enquêtes qui ont été faites montrent que c'est tout à fait vraisemblable. En revanche, ce qui peut arriver, me semble-t-il, à l'heure actuelle, de plus vraisemblable, c'est qu'on se retrouve avec une situation qui va ressembler à celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Rassemblement national progresse très largement, peut-être même qu'il ait une forme de majorité relative, mais qu'on se retrouve avec une assemblée complètement éclatée, avec un bloc d'extrême droite, renforcé par quelques personnalités
républicains,
je ne cite pas de nom, et puis un autre bloc de gauche qui semble se reconstituer, même s'il y a beaucoup de tiraillements à l'intérieur de ce bloc, et puis ce bloc central qui lui-même est très tiraillé, parce qu'il faut quand même voir dans cette affaire que ça soit Gabriel Attal, Premier ministre, Édouard Philippe, François Bayrou, ont été pris de court par cette dissolution, et que ça peut quand même poser des problèmes à terme.
Alors oui, est-ce que ça peut poser un blocage ? Je veux dire, quand on a une majorité relative, mais qui est relativement haute, on va chercher 5% des députés pour faire passer une loi, selon l'inspiration sociale ou libérale de la loi, on va piocher d'un côté ou de l'autre, d'accord ? Mais quand on part à 30%, comment on les trouve les 20% qui restent ?
Mais ce sera une situation d'ingouvernabilité.
C'est ça.
Et d'autant plus qu'on ne pourra pas dissoudre dans l'année qui viendra. Donc, ça veut dire que cette situation, à tout le moins, elle peut durer pendant un an. Alors, ça dépendra aussi. S'il advenait que le Rassemblement national, comme le prédisent les enquêtes ou les sondages, arrive en tête, on aurait une situation de cohabitation.
Mais le problème serait le même pour le gouvernement.
Exactement le même. Et pire encore, parce qu'il est évident que...
Ça sera encore plus difficile d'aller chercher les voix.
Bien sûr, fera tout ce qu'il pourra pour entraver la politique du RN.
Alors imaginons une situation de blocage. Est-ce qu'une situation de blocage institutionnel et politique peut déboucher sur une crise de régime ?
Oui, une situation de ce type peut déboucher effectivement sur une crise de régime. Je suppose d'ailleurs que certains l'attendent. Je ne pense pas que ce soit le cas, évidemment, d'Emmanuel Macron, qui, de manière très, j'allais dire, là encore, bonapartiste, est persuadé, je le suppose, c'est quand même, à mon sens, son hypothèse première, que malgré tout, il va préserver un bloc central relativement fort, qu'il va empêcher cette inéluctabilité de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Mais, je le répète, là encore, c'est un pari extrêmement risqué. Et il y a un tel désarroi, plus que désaveu, je dirais désarroi des citoyens face à leurs élites politiques. Et le spectacle auquel on est en train d'assister, notamment chez les Républicains, leur donne un motif supplémentaire d'être finalement dégoûté de la politique. Et c'est ça qui est dangereux.
Et alors, est-ce qu'on change de paradigme institutionnel et politique? Parce qu'aller chercher une majorité pour chaque projet de loi, c'est un raisonnement parlementaire.
Oui.
Hein, et qui est presque contre nature avec l'esprit de nos institutions, ce côté majoritaire et bipolaire.
Vous avez tout à fait raison, car au fond, c'était une pratique courante sous la 3e et la 4e République. Surtout sous la 3e. La 4e République, c'est encore différent. On a des coalitions bâtardes, mais qui arrivent avant même que ne commence la session, à se mettre d'accord, ou d'ailleurs à se disputer. Mais sous la 3e République, notamment dans l'entre-deux-guerres, il est très courant d'aller chercher en permanence des majorités sur un texte, on va se retrouver ensemble avec de centre-gauche, de centre-droit, un peu de droite, un peu de gauche. Ça, c'est conforme à l'esprit des institutions de la 3e République, d'un régime parlementaire,
oui,
comme ils existent un peu partout en Europe, chez nos voisins.
Merci infiniment, Jean-Éric, c'était
vous.
Passionnant. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la garantie foncière, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr et ailleurs. Bien sûr, à la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.